Le dollar américain, le fameux DXY, a-t-il terminé son rebond sur le marché d'échange? Vous savez, ce rebond qui a eu lieu du début du mois de janvier à la fin du mois d'avril, point technique sur le cours de l'euro-dollar, le cours de l'USD-Yen et le cours du GBP-USD. Alors chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex, mercredi 8 mai 2024, j'espère que vous allez bien. Écoutez chers amis, j'ai envie de traiter avec vous ce sujet du dollar US parce que il a fermement rebondi, vous le savez. J'en parle chaque mercredi, il est leader depuis le début de l'année sur ce qu'on appelle le Forex ou, pour parler français, marché d'échange flottant. Bon, voilà celui qui a démarré dans les années 70, après la fin de la convertibilité or du dollar des États-Unis. Oui, car il y a plusieurs dollars, il n'y a pas que le dollar des États-Unis dans le monde. Mais c'est quand même lui qui domine, puisque je vous rappelle qu'il représente 88% des échanges sur le Forex. En tout cas, il intervient dans 88% des échanges sur le Forex. Ce sont les chiffres de la Banque des règlements internationaux, la BRI, ce qu'on appelle la banque centrale des banques centrales. Oui, donc, je m'adresse ici à ceux qui font du trading sur le Forex et à ceux qui tradent les paires en dollars. Effectivement, vous avez relevé, depuis maintenant environ une semaine, un fort recul de l'USD-Yen. Alors, moi, ma stratégie à l'époque, avait été invalidé par le débordement des 152 yens. J'ai été très transparent sur ce sujet. Voilà que le USD yen est monté à 160, mais qu'il a depuis pris une claque, puisqu'il a pris 800 pips de baisse dans la figure, pour une raison par contre bien documentée, en tout cas nous en connaissons la raison, mais elle sera bien documentée bientôt, à savoir l'intervention directe des autorités japonaises. Elle le menaçait. Mais elles ont eu du mal, en fait, à se mettre en face d'une macro qui soutenait le dollar US, et il a fallu attendre un emballement à 160 yens pour qu'elles agissent et qu'elles créent un drop de 160 à 152. Depuis, ça rebondit. Je vais vous donner mon avis technique sur ce taux USD yen. Donc, oui, la vraie question est de savoir, avec ce que vous observez depuis une semaine, il y a eu un rebond du taux GBP-USD et un rebond du taux euro-dollar. L'euro-dollar depuis les 1,06, la question est de savoir, est-ce que ce dollar US est à nouveau sous pression baissière, entre guillemets, hein, parce que sa tendance reste haussière quand même depuis le début de l'année, mais a-t-il marqué un point haut? Alors, c'est une vraie question, parce que vous savez, en début d'année, il y avait 0%. Il y avait, oui, 0% de probabilité qu'il y ait zéro baisse de taux de la Fed. Et donc, le dollar commença l'année tout en bas, puisqu'il baissa à l'époque, fin d'année 2023, au second semestre 2023. Bon. Depuis, en lien avec les mises à jour globales macro des États-Unis d'Amérique, le dollar a rebondi. Et cette probabilité de voir la Fed réaliser zéro baisse de taux cette année est passé de 0 à plus de 22%. Voilà qui a permis au dollar de rebondir. Mais, depuis la semaine dernière, des statistiques américaines sont venues montrer que le fait que la Fed ne touche pas à ses taux d'intérêt, ça fait maintenant plusieurs mois consécutifs que le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, le taux d'intérêt des Fed Funds, à 5,50, cela commence à mettre la pression sur l'économie américaine. D'ailleurs, les chiffres du PIB américain au titre du premier trimestre, certes positifs. Naturellement, que la situation macroéconomique des États-Unis est bien meilleure que celle de l'Europe. Mais ce chiffre est ressorti inférieur aux attentes. Et puis, depuis, vous avez eu la mise à jour d'indicateurs avancés, notamment dans le secteur des services, qui sonne une petite alerte, une petite alarme, une alerte orange. Attention, ça clignote, attention, plus le temps passe. Plus le temps passe avec les taux d'intérêt actuels, plus cela est susceptible de mettre la pression sur les entreprises, sur les consommateurs, à mesure que ces entreprises et ces consommateurs renouvellent leur ligne de crédit, la fameuse maturité des crédits. Et nous savons que cette maturité, elle est très importante, notamment en 2025. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui avaient des lignes de crédit à des taux bas, ceux que nous avons connus entre 2008 et 2021, et qu'à partir de 2025, une majorité de ces crédits arrive à échéance. Lorsqu'une entreprise arrive au bout de sa ligne de crédit, c'est le capitalisme. Elle refait un crédit. Sauf que là, les conditions ne sont pas les mêmes. Et certaines entreprises ne pourront pas réserver leur marge avec les nouvelles conditions de crédit. Et donc, vous comprenez? Donc, les indicateurs avancés commencent à envoyer des petits, tout petits, hein, n'exagérons pas, tout petits signaux d'alerte. Et la semaine dernière a été mis à jour aux États-Unis le rapport NFP, qui consiste en une série statistique sur le marché du travail aux États-Unis. Et mauvais chiffre, oui, puisqu'il y a eu moins de création d'emplois qu'attendu, 175 000 créations nettes. Alors, au-dessus de 100 000, c'est positif, ça permet d'absorber les arrivées dans la population active. Mais quand même, un chiffre au plus bas depuis le début de l'année, une hausse du taux de chômage à 3,9% de la population active, direz-vous pourquoi? Et alors, la Fed a un seuil d'alerte officiel à 4,1%. Et surtout, des sous-statistiques lorsqu'on décortique, lorsqu'on creuse, qui ne sont pas bonnes. Par exemple, le taux de chômage U6, qui intègre le travail à temps partiel, le travail précaire, 7,4%. Et la pente commence à être sérieusement haussière. L'explosion du travail à temps partiel. Et ça, le travail à temps partiel, c'est les premiers jobs qui sautent en ralentissement économique. Donc, la Fed prend un risque, qui est de maintenir encore ses taux au niveau actuel. Maintenant, la probabilité qu'elle pivote, elle est sur septembre. Elle prend le risque de venir casser ce qu'on appelle le soft landing, le ralentissement de la croissance économique US, mais encore sous contrôle. Elle prend le risque de faire ça parce qu'elle veut briser le coup à cette inflation qui est en surchauffe, alors attention, qui est en pause en fait depuis le début de l'année. Mais d'ailleurs, tous les indicateurs avancés d'inflation sont plutôt optimistes pour avril, mai, juin, donc ça on aura l'occasion d'en reparler, et notamment mercredi 15 mai, la prochaine mise à jour du CPI. Et donc voilà, c'est le dollar est prisonnier de tout ça. Et il a reculé, depuis vendredi, il a reculé suite à cette mise à jour sur le marché du travail US. Et au final, cela a relancé donc GBP/USD, euro-dollar, alors que la BCE, elle, devrait faire sa première baisse de taux en juin, et probablement 2 à 3 de plus d'ici la fin de l'année. Par contre, au Royaume-Uni, l'inflation est encore beaucoup trop élevée. Même, je prends l'exemple de l'AUD/USD, qui est en rebond, parce que la Banque de réserve d'Australie, elle n'exclut pas même une dernière hausse de taux, car il est vrai qu'en Australie et au Royaume-Uni, les taux d'inflation sont encore autour de 4,5%. Donc on n'est pas à la cible. Elles ont toutes les mêmes cibles, hein, 2, 2,5 certaines. Alors parfois c'est un range entre 2 et 3, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc se pose la question, pour ceux qui traitent le Forex, de savoir si ce DXY dollar US que nous allons regarder a fait son point haut, eh bien, faut-il donc chercher à se repositionner long sur euro-dollar, sur GBP/USD et ce satané USD/Yen. On a désormais une super frontière à 152. Alors, tant qu'on tient les 152, c'est bullish, mais si on réintègre, voilà. Et que font les institutionnels? On va regarder les données du rapport Commitment of Traders, donc c'est parti, chers amis, on perd pas de temps. J'ai fait une introduction, oulala, c'était trop long, 8 minutes, c'était trop long, je pense que là, ça, j'espère que ça vous a pas quand même ennuyé. Donc, j'ouvre la séance, au programme, alors que j'imagine que certains parmi vous sont partis déjà en week-end de 4 jours, alors ça dépend, en France, mercredi 8 mai, jeudi 9 mai, et le pont de l'Ascension. En Suisse, il y aura peut-être seulement le pont de l'Ascension. Dans tous les cas, si vous êtes partis, les amis, ne partez pas trop loin. Et prenez plaisir à regarder cette vidéo qui va parler du dollar US. Trois parties, les indicateurs avancés et le marché du travail se remettent la pression sur dollar US. Nous allons faire une analyse croisée dollar US et euro dollar. USD/Yen, les autorités japonaises passent à l'action. Et oui, il y a aussi une partie sur le GBP/USD. J'ai oublié de la mettre ici. Elle aura effectivement sa place. Les fondamentaux mettent à nouveau la pression sur le dollar américain face à un panier de devises. Le dollar US qui a rebondi de 7% en 2024. Alors déjà, de quoi parlons-nous? Parlons de ça. Vous avez donc ici, depuis le début de l'année, hein, quasiment, c'est très précis en fait, hein, depuis vraiment fin décembre, un rebond du dollar US de 100 points à 106 points. Alors ce rebond de 100 points à 106 points s'est traduit par une correction du cours de l'euro-dollar. Vous avez cette correction d'ailleurs qui est propre, hein. Une belle correction ici en trois temps. Cela a aussi donc donné lieu à cette correction sur le GBP/USD. Et donc, cela a donné lieu à une accélération sur le taux USD/Yen qui a dépassé ce seuil. Et vous avez eu donc ici, depuis le lundi 29 avril, vous avez eu une succession d'interventions des autorités japonaises. Et vous constatez que le marché a perdu 800 pips, ce qui n'est pas rien. Ça, j'y viens tout à l'heure pour la partie technique. Mais effectivement, donc, le dollar, et donc, vous observez que depuis début mai, entre janvier et avril, le dollar a bien progressé. Depuis début mai, il est en correction. En correction pour des raisons fondamentales. Est-ce que ces raisons fondamentales sont suffisamment puissantes pour pouvoir affirmer qu'enfin, le dollar US a terminé son rebond? Et donc, terminer cette fameuse vague B que nous travaillons ensemble, puisque moi, je vous rappelle mon scénario sur le dollar US, mon scénario à horizon 12 mois, qui est une réplique de cette première phase de baisse qui avait lieu en 2023. Nous sommes là dans la construction de cette vague B. Alors, s'agit-il ici d'une structure en flat, d'une structure en zigzag qui peut aller chercher un poil plus haut, ou encore d'une pattern en triangle? Ce sont des hypothèses fractales qui sont sur la table. Mais pour moi, j'estime, et c'est plutôt un scénario pour dernière partie 2024 et surtout 2025, j'ai ce scénario-là, ensuite d'une baisse en direction des 95 points. Et donc ça ramène forcément à horizon 2025 l'euro-dollar et le GBP-USD plus haut. Donc nous travaillons ce sujet. Alors, déjà, revenons sur cette hausse du dollar américain depuis le début de l'année. Le dollar US a rebondi de 7% en 2024, entre janvier et fin avril, sur fond de reconsidération brutale des anticipations de pivot de la Fed. Et effectivement, vous avez ici, donc regardez bien, c'est intéressant, vous avez l'évolution de la probabilité de zéro baisse de taux de la Fed. Et en décembre dernier, et en fait jusqu'à mi-février, la probabilité que la Fed réalise zéro baisse de taux, c'est-à-dire donc qu'elle maintienne son taux directeur à 5,5%, on est passé de 0% au 30 avril à 22,8%, sachant que cela est dû à une désinflation US qui s'est mise en pause. J'insiste, hein, la désinflation US s'est mise en pause, il n'y a pas eu de rebond de l'inflation. Je vous remontre ici l'inflation selon CPI, alors qui n'est pas l'indice inflation le plus privilégié par la Fed, c'est le PCE, vous le savez. D'ailleurs, attention, ce chiffre, en fait, maintenant, en gros, on peut balbuter autant qu'on veut. La seule chose qui compte, alors oui, le marché du travail. Effectivement, les chiffres du marché du travail américain, vendredi, là, ont remis la pression sur le dollar US. Mais, au final, la seule inquiétude, c'est la désinflation. Il n'y a pas de seconde vague d'inflation depuis janvier. Il y a une courbe d'inflation qui était baissière. Donc, on parle d'une désinflation. Les prix montent, mais montent moins vite. Ces courbes d'inflation, quelles que soient, ça dépend des composantes, hein, mais si on fait une moyenne, c'est mise à plat. Et là, le marché ne s'attendait pas à ça. Maintenant, moi, ma conviction, lorsque je regarde les indicateurs avancés, c'est que cette mise à plat des courbes d'inflation est un plateau de transition latérale avant de reprendre la phase baissière. Et c'est sur ça, essentiellement, que j'appuie mon scénario de reprise de la baisse du dollar américain en seconde partie de l'année 2024 et sur 2025. Bon, alors justement, ce CPI, c'est très important à suivre, hein, mais ce CPI est mis à jour mercredi 15 mai, ce sera très important. Alors, donc nous en sommes là, mais voilà, depuis le 1er mai, donc depuis la session boursière du 1er mai, ici, donc le 1er mai, c'est cette session-là, vous avez eu, mercredi 1er mai, un rejet, vous avez eu une structure en avalement baissier. Donc pour ceux qui font de l'analyse technique en bougie japonaise, vous avez vraiment ici le cas d'école d'une structure en avalement baissier, qui associe la bougie du mardi 30 avril avec la bougie du mercredi 1er mai, validant une structure en double top, et la cible théorique a été faite. En soi, ici, c'est une figure de renversement baissier, le double top. Un double top qui viendrait donc interrompre la phase de hausse, ici, qui avait commencé le jeudi 28 décembre. Sauf que d'un point de vue technique, il faudrait briser maintenant ce niveau, qui est un vrai niveau pivot, à 104,85, pour, vous voyez, hein, ici c'était un seuil de décrochage baissier, test, on déborde, et là, voilà. Donc, sommes maintenant dans une phase d'hésitation, et ça va en grande partie se jouer sur le prochain chiffre de l'inflation américaine. Alors, pourquoi le dollar US ici est à nouveau sous pression sur le marché d'échange? Il y a eu à cela un certain nombre de raisons. Tout d'abord, alors, vous avez un marché qui commence à se dire que la Fed pourrait accélérer le timing de son pivot pour ne pas menacer le soft landing de l'économie américaine. C'est vrai que le PIB américain au premier trimestre est ressorti inférieur aux attentes. Et il est vrai que, suite à cela, il y a eu un réajustement des anticipations de politique monétaire liée à la Fed. C'est-à-dire que, encore à fin avril, il n'y avait quasiment plus aucun espoir pour que la Fed pivote, c'est-à-dire réalise sa première baisse de taux depuis les 5,50, qu'elle le réalise en 2024. Et depuis les chiffres de la semaine dernière que je vais vous détailler, le marché croit à nouveau encore, mais pas avec une probabilité incroyable non plus, à deux baisses de taux, donc une pour septembre et une pour décembre, sur le taux d'intérêt ici des fonds fédéraux. Alors, en grande partie, cela est lié au marché du travail aux États-Unis, avec un taux de chômage qui continue sa tendance haussière, le taux de chômage U3 officiel à 3,9% de la population active, sachant que la Fed a un seuil d'alerte à 4,1%. Vous avez surtout ce qui crée le lien entre inflation et marché du travail, c'est le taux de croissance annuel des salaires, et ce taux de croissance annuel des salaires est en tendance baissière, et cette tendance baissière a été confirmée par les chiffres de vendredi dernier, et vous avez surtout, ce qui est beaucoup plus inquiétant, une poursuite de l'explosion du travail à temps partiel. Donc vous voyez, là je suis allé dans les sous-statistiques, analyser en détail la composition de ce marché du travail aux États-Unis, et vous avez une explosion du travail à temps partiel, et ce travail à temps partiel, vous savez très bien comme moi, que en cas de ralentissement macroéconomique, les premiers jobs qui sautent, c'est ça. Ça c'est inquiétant. Et plus inquiétant, vous avez ici le taux de chômage U6. Alors, le taux de chômage U6, qui est un gros taux de chômage US, qui prend en compte notamment le travail précaire, ou les personnes qui n'ont plus le courage de chercher un job, je veux dire, la courbe, la tendance n'est pas bonne. Et là, un nouveau plus haut à 7,4% de la population active. Et aussi quelque chose qui stresse le marché, ça a été la mise à jour vendredi dernier de l'indice. Vous savez, il y a des indicateurs avancés. Vous avez les hard data macroéconomiques, les soft data macroéconomiques. Dans les soft data macroéconomiques, on parle des indicateurs avancés. Et aux États-Unis, ce sont les statistiques PMI de l'ISM qui sont très respectées. Et là, vous avez la tendance du PMI des services aux États-Unis selon l'ISM. Là, vous aviez donc la récession de la bulle spéculative de l'Internet, la récession de la crise financière. Je vous rappelle que c'est sous 50, c'est sous le seuil des 50 que le marché passe en contraction. Là, vous avez la récession de la crise sanitaire. Et ce PMI des services a fait un nouveau plus bas. La tendance n'est pas bonne. Et pourquoi c'est inquiétant? Parce que l'économie américaine, c'est 80% des services. Et regardez, lorsque vous allez dans les détails, là, vous avez le rapport NFP-US en détail. Où se font les créations d'emplois? Dans quel secteur? Bien, regardez. Regardez les créations d'emplois. Elles se font dans les services. C'est ici qu'on crée les emplois. Et donc, si les indicateurs avancés des services commencent à nous donner des signaux d'alerte orange, alors que c'est là que se créent les jobs, la Fed va se retrouver avec « Oh la mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai maintenu les taux élevés aussi longtemps ?» Non, parce que là, s'il y a une récession, il n'y a plus de problème avec l'inflation. Bon, sauf en cas de stagflation. Mais regardez ce qui s'est passé en Europe, et pourtant l'Europe est la première concernée par la guerre en Ukraine, les problèmes de matières premières, d'approvisionnement. En Europe, l'inflation est revenue à 2, parce qu'il n'y a pas de croissance. Ce que veut éviter la Fed, c'est un scénario à l'européenne. Pour éviter un scénario à l'européenne, elle devra bien choisir son timing pour ne pas pivoter trop tôt, pour être certaine que le taux d'inflation revient à 2%, mais ne pas pivoter trop tard, pour être certaine de ne pas avoir un scénario macroéconomique à l'européenne. Je n'aimerais pas être à la place de Jérôme Powell. C'est lui qu'on va juger, c'est lui que l'histoire jugera, et voilà, et si le timing n'est pas bon, bah, c'est lui qui sera décrié lorsque dans 30 ans, on parlera de politique monétaire à l'école, si on en parle encore, et on dira, mais quelle erreur avait-il fait? Quelle erreur avait-il fait? Bon. Et c'est important, il y a une dimension politique aussi. Donc voilà, ce sont des choses quand même qui invitent à s'interroger sur le sujet de notre vidéo. Car si tous ces indices, si tous ces premiers signaux d'alerte sont des vraies alertes, dans ce cas, effectivement, le dollar américain a fait son point. Alors maintenant, dollar US, DXY et euro dollar, analyse croisée. On va reprendre l'analyse technique en Elliott et le rapport Commitment of Traders. Commençons donc par le cours de l'euro dollar. Alors moi, le cours de l'euro dollar, hein, je vous rappelle quel est mon scénario de fond. J'estime qu'à très long terme, le marché a fait ses 5 vagues de hausse et que nous sommes désormais nous sommes en train de construire cette vague B. En fait, tout le débat est de savoir si cette vague B est terminée. Alors, je vous remontre ça, hein. La tendance de fond ici en données mensuelles sur le cours de l'euro-dollar, vous avez eu donc vos 5 temps de hausse, impeccable. Et nous sommes dans une structure en ABC, structure fractale en ABC. et la vague B. La vague B est donc ici en construction. De là, il y a toujours plusieurs hypothèses en analyse fractale. Soit vous avez des structures de type triangulaire, soit vous avez des structures ici en zigzag, soit vous avez des structures en flat. Et il y a plusieurs types de flats qui sont possibles. Alors, bon, la structure en zigzag est possible, reste possible, même s'il est vrai que le récent rejet lui fait perdre en probabilité. Nous aurions eu ici, donc nous sommes en train de construire la vague B, nous aurions eu la sous-vague A, la sous-vague B, et nous serions dans la vague C. Dans ce cas, elle serait capable d'aller chercher jusqu'à 108, 109 points avant de voir la tendance baissière reprendre. L'autre hypothèse est celle d'une structure en flat régulier, un peu tronquée. Bon, mais why not? Celle-là, elle peut être valable tant que le marché se maintient sous en fait le double top qui a été réalisé ici. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est celle d'une structure en flat triangulaire et du coup qui se fait en 5 temps en ABC. Nous aurions fait la C, une D, une E et ensuite, plus tard dans la fin d'année, sortir par le bas. Ce sont toutes les hypothèses qui sont sur la table. Dans tous les cas, cela alimente le fait que nous sommes bien dans une vague de transition latérale avant d'avoir une vague C, une troisième jambe de baisse. Lorsque vous regardez ensuite analyse croisée euro-dollar DXY, parce que dites-vous bien une chose, c'est que dans le DXY, vous avez 50% d'euro-dollar. Pour l'euro-dollar, j'ai des choses assez similaires, où ici on a une première jambe de hausse, une vague 1 très propre elle-même en 5 temps, et depuis, les hypothèses fractales sont là. Soit ici, la vague 2 est terminée, nous sommes déjà dans la 3 et on aurait fait la 1 de la 3, la 2 de la 3. Soit nous sommes toujours en train de construire la vague 2 et qui pourrait prendre ici la forme justement d'une structure en triangle, A, B, C, D, E et ensuite ressortir. Dans tous les cas, moi, cette structure technique ici sur le cours de l'euro-dollar, c'est celle que je vous propose. Et je vous propose même, pour être précis, un seuil d'invalidation à 1,0611. Voilà. C'est une structure voilà, qu'on perçoit bien. Alors, comment cela serait possible si la BCE devait pivoter avant la Fed? Alors déjà, effectivement, la BCE va pivoter avant la Fed, mais c'est intégré dans les cours. Ce qui n'est pas intégré dans les cours, c'est s'il y aura derrière une série de baisses de taux. Et ce qui n'est pas intégré dans les cours non plus, c'est le timing du pivot de la Fed. N'oubliez pas, les marchés intègrent toujours toute l'information en avance. Donc au stade actuel, moi, ça, c'est le scénario fractal que je vous propose sur le cours de l'euro-dollar. Et donc, j'ai plutôt le sentiment que vous avez ici, en fait, une zone de bottomisation du cours de l'euro-dollar. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'euro-dollar peut aller à la parité. J'aurais peut-être tort. J'aurais tort, effectivement. J'aurais tort si la BCE pivote cette année et que la Fed ne pivote pas avant 2025. Et là, on sortira par le bas et donc tout mon décompte serait faux. Mais pour l'instant, c'est ce que je vous propose. Et je me suis tourné aussi vers les données du rapport Commitment of Traders. Alors là, vous avez l'évolution de la position institutionnelle nette, la courbe en jaune, sur le cours de l'euro-dollar, où vous aviez eu donc en début d'année un bon signal vendeur donné lorsqu'en fait cette position nette, car on peut faire de l'analyse chartiste sur la position nette, avait fait une structure en épaule, tête-épaule, et qu'on était venu faire le pullback. Et ce que j'observe, c'est que alors que l'euro-dollar ne baisse plus, alors que l'euro-dollar en fait a cessé de baisser, eh bien, cette position nette arrive en zone de support, celle-là même qui, à l'époque, l'avait relancée. Celle-là même qui, à l'époque, l'avait relancée, en fait, en 2022, au niveau des 0,95. Et cette position nette, elle est revenue au même endroit, qui est une zone de support, donc, alors que l'euro-dollar se maintient ici. Donc, moi, je trouve que ça va dans le sens d'une phase de transition latérale avant d'être capable, plus tard, de ressortir par le haut. Bon, naturellement, ces chiffres sont en retard, hein, puisqu'ils datent de mardi de la semaine dernière, et que pour avoir les chiffres du mardi de cette semaine, c'est-à-dire du mardi 7 mai, il faut attendre ce vendredi 10 mai. Donc, c'est le problème. Et il est bien possible que vendredi, je découvre en fait que la position nette est déjà là. Et dans ces cas-là, bah, tant mieux, c'est qu'on serait, on sera en zone de support. Et ça alimenterait mon scénario d'un rebond sur le cours de l'euro-dollar. Mais au final, vous savez, dans l'euro-dollar, ok, les fondamentaux de l'euro comptent, mais plus que jamais, ce que j'ai observé, c'est que ça reste les fondamentaux du dollar US. Donc, pour avoir un scénario bullish comme ça sur l'euro-dollar, il faut vraiment que la Fed ne pivote pas au-delà du mois de septembre. Alors, je continue, puisque j'ai dit que j'étais précis sur le dollar-yen et sur le GBP-USD, USD-yen, les autorités japonaises, Japanese Authorities, Japanese Government, sont passés à l'action. Et oui, et là aussi, chers amis, eh bien, effectivement, rappelez-vous mon invalidation. Car, moi, quand je me plante, je le dis. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de le dire, vous le constatez. Oui, je me suis planté sur l'USD Yen. Oui, effectivement, j'étais vendeur à 152 yens. Effectivement, la résistance a été breakée, j'ai été invalidé. Maintenant, je l'admets, mon erreur a été de surestimer l'impact de la première hausse de taux de la BOJ et surtout de croire que la Fed pivoterait trop tôt. Maintenant, systématiquement, lorsque les autorités japonaises sont passées à l'action, ça a été un point haut de moyen terme. Et je pense que il existe une probabilité non négligeable maintenant que l'USDN réintègre les 152 yens. Et là, ce serait vraiment un signal technique vendeur. Alors, l'USDN était haussier parce que le yen était la devise. C'était du carry trade. Les taux zéro contre le reste du monde. Regardez ici ces informations sur le carry trade. Toutes les paires. Tout le funding en yens a eu un retour positif. Bah, et on emprunte en yens, ça coûte zéro. Et on investit dans les pays où ça rémunère en positif. Donc le yen, pour toutes ces raisons, effectivement, était sous pression. J'ai sous-estimé ça. Et donc cela a permis à l'USD Yen de briquer les 152. Maintenant, vous avez ici, vous avez depuis une semaine quelque chose qui est significatif, qui est cette fois-ci, eh bien, vous avez ici le taux USD Yen inversé. Vous voyez l'effet significatif des interventions récentes du gouvernement japonais. Et c'est vrai que le gouvernement japonais avait menacé d'intervenir. Et au final, cela se résulte par un bel avalement baissier en données hebdomadaires. La dernière fois que le gouvernement japonais est intervenu, c'était ici. Et derrière, voilà. Donc, pour l'instant, le signal short n'est pas donné. Il faudrait réintégrer les 150 yens. Mais dites-vous bien que si on réintègre à la baisse 152 yens, on ira minimum à 140. Donc moi, cette fois-ci, je ne m'avance plus, puisque j'ai eu tort, hein, je ne fais pas le malin. Mais attention, potentiellement ici une structure en VTOP. Tant qu'on est au-dessus des 152 yens, oui, c'est haussier. C'est précis, regardez, hein, puisque, là, regardez, on a fait une touchette. Tant qu'on est au-dessus des 150 yens, mais moi, franchement, je me dis, il y a un risque qu'on réintègre 152, et là, on ira à 146 et 140. Donc attention à ça. Alors, le GBP/USD, y a-t-il aussi sur le GBP/USD une construction technique haussière à l'image de celle de l'euro-dollar? Alors effectivement, déjà, première chose, n'oubliez pas que le Royaume-Uni, depuis le Brexit, il est dans la panade. Vous avez ici la courbe de la core inflation selon le CPI au Royaume-Uni. Elle est quand même encore à 4,2. On est très très loin d'avoir des dispositions de régime des prix qui permettent à la très vénérable Banque d'Angleterre de pivoter. Et donc, on pourrait envisager que la Banque d'Angleterre pivote après la Fed. Dans ce cas, si la Banque d'Angleterre devait pivoter après la Fed, effectivement, c'est un scénario bullish pour GBP/USD, où je trouve qu'on a une structure technique assez similaire au cours de l'eurodoll, avec une première impulsion ici entre les 1,04 et les 1,30, et nous sommes là dans une phase de transition latérale, peut-être une structure en triangle, qui pourrait être une figure de continuation. Je vous ai proposé un seuil d'invalidation sur l'eurodoll, je vous propose un seuil d'invalidation ici sur le cours du GBP USD. De toute façon, les amis, la suite, finalement, et ça a toujours été le cas, dépendra des fondamentaux américains. Et clairement, les mises à jour de ce mois de mai pour le PPI, le CPI et le PCE feront la pluie et le beau temps sur le marché des changes. Je serai avec vous dans le programme Fast and Forex pour tout analyser et vous faire les mises à jour. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne fin de semaine. Salut.